tout le monde. Bonjour, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 10 juin 2015, et c'est d'ailleurs la 70e émission. Christophe Renaud au micro. Gérald est également dans les studios avec une foule incroyable. On n'atteint pas encore la foule, je crois, Gérald, de je ne sais plus quel rendez-vous précédent où il y avait quoi, 14 personnes ou 19 dans le studio, non, j'en rajoute. Néanmoins, il y a quand même du monde. Cléo Bull est avec nous, ainsi que Léo, il y a même Thérèse et puis Karine. Chacun, chacune se présentera. Ils sont là pour nous parler de cet opéra, de ce très bel opéra, Péléas et Mélisande, donné actuellement à l'Opéra Lyon. Ça a commencé le lundi 8, il y a deux jours, ça continue jusqu'au lundi 22, dans deux semaines. Alors c'est un opéra absolument génial, mais pour ce qui est de cette mise en scène à Lyon, on en parlera avec tous nos invités. Voilà. Nous commençons avec un petit peu de Debussy, Clair de Lune, pour nous mettre dans cette ambiance, nous sommes quoi, tout début 20e siècle, voilà, c'est une belle musique très délicate. Et puis ensuite, comme d'habitude, nous parlerons avec tous nos invités, nous parlerons également, puisque ce sont des invités locaux du CRU, nous parlerons eh bien, d'eux-mêmes. Dans quel collège sont-ils, les garçons? Et puis, que font précisément Karine et Thérèse au sein de la maîtrise de l'Opéra Lyon? Voilà, vous nous écoutez sur Radio Canu, le 102.2 de la bande FM à Lyon, c'est tout à fait normal. Vous pouvez également nous entendre sur internet, radiocanu.org. Ça pourrait encore continuer pendant quoi, 2 à 3 minutes. C'est très agréable, hein, n'est-ce pas, cette musique, Gérald?
Je dirais même mieux, bonjour chers auditeurs, bonjour chers invités. C'est un tube.
Tu as raison.
Donc c'était suite Bergamasque 1890, interprétée au piano par Cristina Arianio.
Très bien.
Dans une compilation de musique Art Nouveau, où il y a aussi Satie, Boulanger, Millot, Ravel, Taillefer, Poulain, Ibert.
Alors Gérald, nous recevons aujourd'hui beaucoup de monde et d'ailleurs chacun va se présenter. Donc tu as lancé ce bonjour de début d'émission, tu as tout à fait raison. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Donc dans l'ordre, hein, Gérald, à partir de toi sont autour du micro Léo, Thérèse, Cléobule ainsi que Karine. Alors qui est chacun? Bien, on va commencer à ta droite, Gérald. Hein, on aurait pu commencer par Karine, mais comme Karine est éventuellement la maîtresse de cérémonie, ou je ne sais pas comment la nommer, la personnalité de cette émission, eh bien commençons, nous terminerons par elle. Bonjour Léo, pourriez-vous nous indiquer en deux, trois mots qui êtes-vous, bonjour. Votre âge peut-être aussi, dans quel collège vous êtes, ce que vous faites?
Je m'appelle Léo Cagnard, je suis dans le collège Ampère, en quatrième. J'ai bientôt 14 ans. Et voilà.
Et alors, vous faites de la musique un peu dans la semaine?
Oui, je suis à la maîtrise de l'Opéra de Lyon.
C'est pratique, c'est à 200 mètres, 300 mètres, non, du collège Ampère? Un peu
oui,
plus, 400 mètres.
Un peu mètres. Plus, ouais. Oui. 500. Et... c'est en horaire aménagé, donc voilà, on fait à peu près 10 heures de musique par semaine.
Très bien, alors là je suis en train de tenter d'extorquer des informations que peut-être Karine ou bien Thérèse pourront donner de leur côté. Donc nous vous laissons pour l'instant une seconde Cléobule, on continue, Léo, excusez-moi, je commence déjà à confondre nos deux ignoles de qui sont présents. Et d'ailleurs oui, sur scène à l'opéra c'est pas toujours très net, mais c'est très bien. Merci à Christophe Honoré, c'est peut-être le seul merci qu'on puisse lui indiquer, lui donner. Enfin bref, poursuivons le tour de micro. Thérèse, bonjour.
Bonjour.
Vous avez un poste au sein de la maîtrise des relations techniques, ou je ne sais, je vous en prie, présentez-vous bien.
Alors,
mieux que je ne pourrais le faire.
Moi je m'occupe de la direction de la maîtrise de l'opéra, donc... c'est un établissement d'enseignement artistique où les enfants viennent étudier des cours de chant, de piano, de claquettes de danse, chant choral bien évidemment. La maîtrise prépare des enfants susceptibles d'être produits sur la scène de l'opéra, soit en qualité de soliste, comme ça a été le cas pour Léo ou Cléobule sur Péléas, soit dans le cadre d'un chœur pour des concerts ou dans certains opéras. Voilà, et moi j'ai la joie de diriger tout ce petit monde avec une équipe d'enseignants, d'une quinzaine d'enseignants, et c'est un vrai bonheur.
Et alors, enfin, je ne sais pas si la distinction s'opère bien, mais vous seriez donc plutôt dans ce qui est de l'administratif ou de l'artistique, ou alors vous faites absolument tout, vous avez différentes casquettes et vous assurez les différentes
alors,
choses.
Alors non, moi, en ce qui me concerne, c'est uniquement de l'administratif, gestion de relations humaines et puis aussi, surtout, gestion d'établissement, un peu comme un établissement scolaire, mais un établissement d'enseignement artistique, en lien avec l'école Gerson, où sont scolarisés les plus jeunes, et puis le collège Ampère, où sont scolarisés les plus grands. Il y a aussi des lycéens qui viennent, mais alors eux, ils viennent en dehors des heures d'enseignement, les mercredis après-midi et les vendredis soirs.
Très bien, je crois que vous avez tout indiqué. Je souhaitais retrouver les fournitures, je vais y arriver. Je vais mettre la main sur ces fournitures qui sont demandées sur le site de l'opéra. Je crois qu'il y a donc une tenue, me semble-t-il, des chaussons. Il est également question d'avoir un piano chez soi. Enfin, après, voilà, ça peut sembler amusant. En fait, non, il est nécessaire d'avoir une pratique alors, pour ce qui est de ces fournitures, chez soi notamment. Enfin,
ça, oui, alors il y a des cours de piano qui sont disposés à titre individuel pour chaque enfant. Du coup, il faut qu'il puisse évoluer correctement. Et c'est comme quand on enseigne des langues vivantes, on ne peut pas faire une heure par semaine, donc il faut en faire tous les jours. Donc nos maîtrisiens, ils sont soumis à un rude effort, en plus des devoirs scolaires, eh bien, ils ont les devoirs de révision de morceaux de piano. Ils ont aussi des cours de technique vocale où ils ont éventuellement des devoirs à la maison aussi, mais ça, ils en parleront peut-être. Et puis en tenue, alors on a une tenue de concert en fait, qui est pantalon noir, chaussures noires.
Chaussettes également, je dis, des chaussettes noires.
Et
attention,
voilà.
Et les chaussures, il s'agit de mocassins noirs ou bien chaussures de ville noire à lacets. C'est bien précisé sur le site.
Oui, parce que on fait pas de concert en basket. On a un cœur d'enfant qui doit être à l'image du sérieux de la maison. Et voilà, on travaille pour l'opéra, donc on doit avoir la beauté visuel qui rappelle l'opéra.
Et les claquettes, alors, ça c'est pour...
Alors les claquettes, eh ben, ça a commencé il y a très très longtemps.
Claquettes mixtes en cuir, noires à lacets, référence SO301 Jazz Tap avec des plaques à vis. C'est bien précisé sur le site.
Alors là, je ne vous dirai pas la raison parce que je ne m'appelle pas Sylvie Kay, notre professeur de claquettes, mais bon, l'histoire de la pratique des claquettes à la maîtrise, ça remonte à il y a très très longtemps. C'était le premier enseignement de danse qui avait été choisi à l'époque, notamment aussi pour une question de travail de rythme. Et du coup, voilà, ça peut paraître curieux, mais on pratique la danse et les claquettes à la maîtrise. On aimerait bien faire aussi un peu de théâtre de temps en temps pour approfondir notre travail de figuration, mais pour l'instant, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a pu approfondir dans les enseignements. Peut-être à venir.
Alors, j'en suis désolé, je cherche peut-être un peu à plaisanter, je vais arrêter parce que tout ce que vous dites se retrouve notamment dans ce bel article, un article très complet de La Croix. Je sais que Gérald aime souvent citer le 1, mais on peut tout de même parler de La Croix, un article du 22 mai dernier signé Bénévent Tosserie. Et cet article est assez complet parce qu'il évoque justement toutes ces différentes choses, et notamment cette question importante qui est que, mais c'est peut-être davantage à Karine que nous pourrons demander un complément d'information, c'est qu'il évoque quand même cette idée que vous n'avez pas pour ambition, je crois, de recruter à la fois déjà des spécialistes, ni d'en faire des spécialistes ou des artistes, je ne sais pas quel terme employer, vous avez quand même l'envie de choisir des potentiels à développer, peut-être pour des futures professions, mais pas nécessairement. Et donc voilà, enfin, ça peut être important. Je sais pas, moi, il me semble qu'on se perdait dans des choses techniques avec les claquettes ou bien avec le piano à voir chez soi. Enfin, peut-être des choses qui pouvaient sembler hors de portée ou difficiles. Et en fait, non, ça peut vraiment être ouvert à tout le monde. Un certain Adèle est cité dans cet article. Il y a également une autre jeune fille, enfin, j'ai perdu son nom. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Il n'y a pas d'aspect d'élitisme ou je sais pas quel terme employé qui peut toujours sembler un peu un gros mot, mais ça n'est quand même pas.
Ouais. Non, l'article de La Croix qui est paru en mai dernier, c'était basé sur les auditions de recrutement. Et donc, effectivement, le recrutement des enfants n'exige absolument pas une pratique artistique à la base. Simplement, quand ils sont plus grands, s'ils passent une audition pour rentrer au chœur d'adolescente, effectivement, on ne peut pas prendre un enfant qui n'a jamais chanté, qui ne connaît pas la lecture de notes. Mais quand ils arrivent en primaire, même au collège, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une grande expérience pour pouvoir...
Il y a une audition, comment se passe les sélections ? Il y a une audition pour la sélection ?
Oui, c'est sur audition. Donc les enfants remplissent un dossier qui est très succinct, hein, avec leur état civil, et puis essentiellement les bulletins scolaires pour ne pas les mettre en difficulté, parce qu'on a un rythme assez dur quand même, hein. Il faut que l'enfant puisse suivre...
Grande capacité de travail.
Voilà.
Mais on peut pas porter mots, vous prenez quand même les meilleurs. Et ce serait bien judicieux.
On essaye de prendre des enfants... là, c'est Karine qui va plus répondre, hein, sur le plan artistique. C'est plutôt son oreille qui travaille.
Je pensais à une transition tout assurée. Tu posais la question, Gérald, de comment se fait donc ce recrutement, ces auditions. Eh bien, par exemple, vous, Cléobule, comment cela s'est-il passé? Depuis quand êtes-vous entré dans cette maîtrise? Cléobule, donc voilà, pourriez-vous nous dire quelques mots? Et puis, justement, ben, une réponse peut-être à cette question. Depuis quand êtes-vous à la maîtrise de l'Opéra Lyon? Commençons par votre collège, tout d'abord. Et puis, votre âge, peut-être. Bonjour, Cléobule. Ça en fait des choses.
Bonjour, je m'appelle Cléobule Perrault. J'ai 12 ans. Je suis allée à la maîtrise en CE1 et donc là je suis en 5e. Donc ça fait 6 ans ou
à peu près
6 ans, ouais. Et
comment êtes-vous entrée dans
je suis entrée
C'était en quelle classe? CP,
en
CE1.
En CP, enfin fin CP, je suis allée faire l'audition. Donc on devait faire un chant et une poésie.
Colchic dans les prés, par exemple? Non, c'était autre chose. Vous vous souvenez?
Moi, je devais chanter... je m'en rappelle plus du tout.
Ce n'est pas un souvenir marquant. Enfin, voyons, Cléobule. Karine est absolument scandalisée.
Je m'en rappelle plus du tout. Mais par contre, la poésie, c'était le corbeau et le renard.
Magnifique, maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Très bien, vous pourriez presque poursuivre. Non, c'est oublié depuis, Cléobule. Un fromage, maître renard pour l'odeur alléchée, lutin après ce langage, on va en rester là.
Oui.
Et pratiquez-vous un instrument, par exemple, chez vous? Oui, donc du piano.
Oui, avec la maîtrise, je pratique le piano, donc le chant forcément, et voilà.
J'ai manqué l'information, je devais pas être assez attentif. Votre collège, où êtes-vous? Vous l'avez indiqué?
Non, j'ai pas indiqué. Ah. Je suis au collège Ampère.
Ah, donc comme Léo, êtes-vous d'ailleurs un peu camarade ou non? Quand on est en 5e et 4e, on ne se fréquente
si.
Pas, on se côtoie
si.
Pas. Si, quand même. Bon, mais c'est très bien. Cette complicité, on pourra peut-être davantage la développer tout à l'heure, Karine notamment, puisqu'il s'agit sur scène, les deux incarnent Ignold, nous en parlerons en deuxième partie d'émission, Ignold, un rôle assez important tout de même dans cet opéra, Péléas et Mélisande. Terminons ce tour de table, Karine, est-ce que vous pourriez bien vous aussi...
Bonjour.
Bonjour. Pourriez-vous, eh bien voilà, faire comme chacun, vous présenter, indiquer différentes choses.
Donc
sur vous.
Je suis Karine Locatelli, je suis le chef de chœur de la maîtrise de l'Opéra de Lyon. Et donc mon travail à la maîtrise, c'est d'abord de préparer les enfants à monter sur scène. Donc ça peut être des enfants solistes comme ici dans Péléas. C'est très très souvent des enfants qui chantent en chœur aussi. Et puis on a aussi d'autres activités de concert en dehors de la scène de l'opéra, voilà, à l'extérieur, lors de tournées, etc., etc. Donc j'ai un travail qui est passionnant, parce que je suis avec les enfants toute la journée, toute la semaine, sur les concerts, sur les productions. Et puis ces enfants, je les vois évoluer, parce que, comme disait Cléobule tout à l'heure, il est rentré à la maîtrise en CE1, voilà, maintenant il est en 5e. Moi, ça fait quelques années que je suis ici, et du coup, c'est aussi très intéressant de voir un petit peu ce qu'ils deviennent et comment ils évoluent en musique et puis aussi dans leur parcours en général. Que vous dire d'autre encore?
J'ai plein d'informations sous les yeux, hein. Je vois que vous êtes byzantine, je vois également que vous êtes clarinettiste sur une excellente biographie qui m'a été transmise, un site carillocatelli.com.
Oula. Ça date un peu ça, non?
Non, la photo est assez fidèle, les informations le sont également. Donc oui, byzantine, qu'est-ce qui vous a conduit à Lyon? Il y a également un opéra à Besançon.
Il y a un théâtre, oui. C'est-à-dire, moi je suis née à Besançon, j'ai commencé la musique là-bas. Et puis après Paris, direction d'orchestre surtout, et puis ensuite Lyon pour la direction de chœur. Et puis après l'opéra, voilà. Puis l'opéra, on y est bien, donc voilà.
Donc vous y restez. Et la clarinette, alors, c'est terminé?
La clarinette, c'est terminé. C'est terminé parce qu'il y a un moment donné où il faut
choisir.
En tout cas dans ce métier, où il faut choisir aussi. Donc oui, j'ai fait beaucoup de clarinettes. Mais à vrai dire, en clarinette, je préférais le répertoire folklorique. Non, pas jazz, mais plutôt yiddish, musique d'Europe de l'Est, tout ça. Voilà, klezmer. Voilà, et puis quand même, voilà, mon truc, c'est diriger, quoi.
Et alors, vous êtes donc comblé, dites-vous, à l'Opéra de Lyon. On s'y sent bien, indiquez-vous. Cela fait presque 10 ans que vous y êtes, c'est ça?
Ça fait 7 ans. Enfin, j'entamerai ma 8e saison. Oui, le travail avec les enfants, c'est absolument passionnant. Vous le verrez après, en parlant un peu avec les garçons, que on ne s'ennuie jamais. Voilà, donc on vit beaucoup de choses ensemble. Il y a l'émotion du spectacle, il y a toute cette période de préparation aussi qui est longue autour de la partition, parce qu'avant d'arriver au travail de mise en scène, donc cette fois-ci avec Christophe Honoré, on a quand même mis sur pied tout un travail, parce que c'est pas tout à fait comme au théâtre, à l'opéra, quand on arrive, on connaît parfaitement son texte déjà, on passe à autre chose, quoi. Donc voilà, il y a tout ce travail-là qui est chez nous un travail de, on appelle ça l'étude de rôle. Voilà, on travaille le rôle, en tout cas musicalement. Puis après, le metteur en scène, il met aussi son interprétation, le chef d'orchestre qu'on rencontre aussi un peu plus tard. Voilà. Non, mais moi, j'adore mon travail. Je suis très heureuse dans cette maîtrise de l'opéra. Voilà.
Peut-être un dernier mot sur la maîtrise. Il me semble que l'article de La Croix disait que, enfin, du moins, citait vos propos. Vous indiquiez avoir été présente avec la maîtrise dans quasiment tous les opéras de cette saison 2014-2015.
Disons que cette saison était particulièrement riche pour nous, parce
pour
que effectivement pour la maîtrise, il y avait beaucoup d'opéras qui nécessitaient des enfants. Alors bon, moi, ce qui me concerne plus, évidemment, c'est quand les enfants chantent, mais il y a eu pas mal de demandes d'enfants en figuration aussi sur le plateau. Mais on a beaucoup chanté à l'opéra cette année, et
on peut l'évoquer,
c'est tant mieux, parce que
l'opéra précédent.
Le précédent, c'était Carmen, il y a très peu de temps. Juste avant, il y a eu Orphée Eurydice, où on avait le rôle d'amour qui était interprété par 6 enfants de la maîtrise. Voilà.
Et alors ça, justement, ça vous donne peut-être du travail, mais c'est intéressant. C'est stimulant, c'est fascinant.
C'est stimulant pour les enfants. Et puis d'aborder des rôles qui ne sont pas toujours confiés à des enfants. Là, c'était ça qui était un peu particulier. Puis après, ce qui est intéressant, c'est la rencontre avec l'univers du metteur en scène. Quoi. On a des surprises, comme vous le disiez tout à l'heure, quelquefois. Donc même si on n'adhère pas toujours, on est quand même happé par sa lecture, finalement. Et puis je trouve que c'est intéressant. On découvre. Voilà, on découvre d'autres choses, en général.
Eh bien, je crois qu'il est temps de découvrir, notamment. Je pense que c'est donc Cléobule qui doit interpréter... L'air, où c'est toujours difficile de parler de la musique de Debussy. Là, nous sommes donc dans le quatrième acte. Est-ce le début du quatrième acte?
C'est le troisième acte.
C'est la fin du troisième acte. Alors, quel tableau? C'est le huitième tableau?
C'est la troisième scène du troisième acte. Quatrième scène du troisième acte.
C'est un opéra en 18 tableaux. Pff, Léo qui corrige les professeurs. Mince,
je m'ennuie pas avec.
Il va falloir faire attention, Gérald. Donc écoutons Ignold. Ignold, c'est le personnage de cet opéra, puisque justement nous dirons ensuite est-ce Léo ou bien est-ce Cléobule. Vous en saurez plus. Je crains de peut-être me permettre cela, auditeur, une fois qu'on aura entendu ça. Je ne sais pas si je vais l'enchaîner tout de suite, mais il faudrait parler un petit peu de jazz à Vienne. Il y a des petits spots de 30 secondes parce que, oui, auditeur, nous avons des places à faire gagner. Tout cela est indiqué sur le blog. Des places pour deux soirées, les 28 juin, je crois, et 9 juillet. Je ne sais même plus. Je vérifie tout ça. Donc peut-être que je vais mettre juste après le petit père, juste après cette air, et bien peut-être écouterons-nous ce jingle, ou alors je garderai cela pour la moitié d'émission ou fin d'émission. Voilà, nous écoutons, c'est un extrait sur le vif de l'Opéra de Lyon, de cette production actuellement de Pélas et Mélisande, donnée du lundi 8 jusqu'au lundi 22 juin.
Thank you.
On ne peut pas donner tort à l'Opéra de Lyon, à cette belle production. On ne peut pas donner tort au public d'applaudir à ce point. Je n'ai pas retrouvé ce générique, de ce jingle de Jazz à Vienne. Promis, on en reparlera peut-être tout à l'heure en fin d'émission. Mais donc là, on ne peut pas donner tort au public de l'Opéra de Lyon qui sait apprécier ici une force à la fois musicale, c'est-à-dire l'œuvre elle-même de Debussy, mais une force également dans l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dans la direction de Kazushi Ohno, qui me semble d'une maîtrise mais stupéfiante. La diction de Vincent Le Texier en golo est absolument saisissante. Quant à... Alors, lequel était-ce ? Léo ou bien Cléobule ? Question que nous posons à nos invités, puisqu'aujourd'hui, dans Spectaculaire sur les coups de 14h30, vous pouvez, auditeurs, entendre les personnes concernées par cet opéra donné à Lyon actuellement, l'opéra Pédéas et Mélisande. Ça a commencé lundi 8, ça se termine lundi 22 juin. Nous avons donc les premiers concernés par cet extrait. Nous avons Léo, acteur principal, Cléobule, doublure peut-être, et nous avons Karine qui peut éclaircir peut-être la chose à l'instant.
Alors la question c'était lequel était-ce ?
Voilà, c'est ça exactement.
Alors ils étaient sur scène tous les deux à ce moment de cette scène géniale dans l'opéra, même dans tout l'opéra en général, c'est vraiment une scène très 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 touchante.
Effrayante. Terrible.
Ouais. Puis qui est difficile à chanter, vous avez remarqué, mais qui est difficile aussi parce que c'est très très tendu, voilà, c'est très tendu, et vous avez vu sur scène, il y a des choses à faire, voilà. Donc lequel était-ce ? Ils étaient là tous les deux, et ils interprètent le rôle d'Ignol de tous les deux, puis après je vais les laisser continuer. Cléobule ? Léo ?
En fait, à la base c'était moi qui devais chanter. Mais vu que je suis en train de muer, il y a des notes que j'arrive plus à chanter. Du coup, c'est Cléobule qui chante et moi qui suis sur la scène. Enfin, on est tous les deux sur la scène, mais lui chante et moi fais le rôle principal d'Ignol.
Voilà, Christophe Honoré tenait à ce que Ignol soit un tout petit peu plus adolescent que Cléobule, en fait. Léo avait été choisi au départ. Bon, ces deux garçons ont été choisis parce qu'ils ont quand même maîtrisé parfaitement le moment de l'audition. Parce qu'avant ça, il y a encore des auditions à la maîtrise. Une fois qu'on est rentré, pour les rôles, il faut aussi se décider à un moment donné. Donc il y a encore des auditions. Et donc ils étaient de toute façon prévus tous les deux. Alors comme on a eu cette petite surprise de parcours, qui est dans l'ordre des choses, on va dire. Là, c'est une équipe extraordinairement soudée qui interprète le rôle d'Ignold, puisque Cléobule chante du haut de son mur et puis Léo continue à jouer le personnage. Tu veux dire quelque chose, Cléobule ?
Ah si, Cléobule, il faut vous entendre, il faut qu'on vous entende indiquer, je ne sais pas, ce que vous souhaitez.
Est-ce que c'est un rôle difficile ?
À chanter, donc.
À apprendre, ça a été un peu dur. Sinon, la mise en scène, c'était pas très compliqué à apprendre. Je sais pas.
Le déplacement, l'interprétation, l'incarnation du personnage.
Ouais. Et donc, c'était pas super compliqué. Mais voilà.
Ce qui était un peu spécial pour Cléobule, c'est comme on a à un moment donné décidé qu'il allait quand même chanter le rôle. Au niveau scénique, on lui a dit tu montes sur ce mur, t'es perché à 3 mètres et puis tu chantes ton rôle, quoi. Et on en était à peu près aux premières répétitions d'orchestre, donc c'est-à-dire c'était il y a 7-8 jours. Hein. Donc après, il faut quand même des enfants très solides aussi au plan vocal, musical et tout ça, mais aussi moralement.
Mentalement, oui.
Je parle de tous les deux, mais c'est vrai que là, comme ils forment une équipe bien, bien unie, ça fonctionne, mais ça a été... Ça a été un petit peu chaud sur la dernière grande ligne droite, on va dire.
Mais enfin, pour le coup, vraiment Christophe Honoré est plutôt à féliciter parce que le choix de conserver, je crois, Léo me semble excellent puisque vous incarnez vraiment, j'ai trouvé, ce personnage d'adolescent ombrageux, ténébreux, je sais pas comment le nommer, qui est assez présent sur scène à la fois par le système des vidéos qu'on n'a pas encore évoqué. Il y a un panneau en fond de scène qui est assez systématiquement là pour montrer différentes projections, donc des prises de vue. Je crois que Thérèse indiquait que c'était dans les environs de Lyon. Alors on a quitté le département du Rhône, c'est davantage dans l'Ain, me semble-t-il.
Il y a eu plusieurs scènes tournées avec les enfants. Léo en a tourné pendant 2 ou 3 jours. Tu as été...
4 jours.
4 jours, voilà. Il a été pris pour des tournages, donc il y en a eu un certain nombre qui ont été effectués dans une usine à Fézin.
Ouais, je dis prise de vue, c'est davantage que ça, c'est vraiment du tournage.
C'est vraiment du tournage. Et du coup, il a pu faire cette expérience-là, mais Cléobule aussi, parce qu'en fait, il y a eu des prises de vue de Cléobule qui n'ont pas été utilisées au final. Mais,
pour le coup, peut-être tant mieux, le visage est trop angélique, je trouve. ça fait trop un petit prince, éventuellement. Il manque les bouclettes, mais enfin, on est dans un personnage peut-être trop lisse, alors qu'il y a vraiment un aspect terrible, un aspect dur, puisque le personnage joue un rôle. Je ne sais pas si vous pouvez développer Léo ou peut-être Thérèse ou éventuellement Karine. Le personnage est très présent dans la plupart des scènes. D'ailleurs, à la fin, c'est absolument c'est monstrueux. C'est lui qui ferme les portes. C'est plus ou moins lui qui précipite la venue de son père Golo pour réserver un sort assez dur, assez criminel à appeler, ainsi qu'à Mélisande. C'est bien lui qui ferme les portes. Et ça, d'ailleurs, on ne le voit pas sur scène. Disons, on le voit par, justement, vous l'indiquez, Thérèse, on le voit par ce film. Enfin, c'est projeté. On le voit donc boucler une... Voilà,
alors il y a une partie de l'histoire qui est montrée uniquement par des visions de vidéo, voilà, des interprétations du livret, et voilà, donc là Léo est très très présent à travers ces vidéos. Il y a aussi la petite fille qui a tourné dans un étang dans l'Ain. Enfin, c'était une carrière
dans les dombes avec les brouillards et tout ça, non?
Oui, il faisait très froid ce jour-là, il faisait 13 degrés.
Je n'ai pas vu le spectacle, mais ce que vous me dites là m'évoque vraiment un certain genre cinématographique, par exemple les films de Mario Bava, des séries,
ça pourrait,
de films de terreur, ou alors Le Village des Damnés de Carpenter, des choses comme ça. Quand des figures enfantines ou adolescentes incarnent le diable ou le mal, c'est toujours assez terrifiant. Alors c'est un peu ça qui ressort.
Il y a une part de mal, moi il me semble être très bien. Bah, bravo Gérald, oui, il y a une part de mal, de maléfice chez... non pas chez Léo, hein, j'allais dire, mais chez Ignold. Enfin, vu par Christophe Honoré. Mais c'est Christophe Honoré qui l'a dessiné.
Oui, c'est l'interprétation de Christophe Honoré. C'est-à-dire, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que c'est intéressant aussi parce que c'est sa vision à lui. C'est vrai que dans le livret, Ignold, il est très peu présent, en fait. Et là, là, dans l'opéra, il voit tout, il comprend tout, donc il est un petit peu plus âgé que le rôle,
concrètement,
normalement.
Concrètement, il est sur scène, et donc on le voit évoluer.
Il est témoin de
Il est témoin de plein de choses. On se demande si c'est pas un peu lui qui manipule les adultes aussi. Enfin, voilà, il y a tout ça, quoi.
Ah, mais là, ne nous méprenons pas.
Le tour d'écrou.
Oui,
Henry James, Les Innocents,
un opéra donné à Lyon la saison dernière,
oui,
dans le cadre du Festival Britain. Ne nous méprenons pas, le compte-rendu qui commence à apparaître sur le blog se veut un peu critique, mais Christophe Honoré a tout de même réussi certaines choses, ça c'est évident. Moi, c'est vraiment la voiture, là, cette question de bagnole, là, j'y arrive pas. Et puis, il y a ces différentes scènes sexuelles me gênent un petit peu, mais là, le point de vue de cet Ignold, là, pour le coup, oui, je crois que c'est extrêmement intéressant, stimulant, ou se dire que ce personnage qui est assez angélique, assez doux, qui apparaît concrètement dans deux scènes. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver, on va peut-être écouter le début donc, de cet acte 4. Eh bien, ce personnage qui est donc très peu présent, ça peut être intelligent de se dire que les choses sont peut-être, de son point de vue, sont peut-être plus importantes seulement que ce qui est joué. Et moi, éventuellement, voilà, quelque chose qui me gêne, c'est l'histoire de cette perruque blonde. Vous le vivez comment, vous, Léo, ce passage où vous êtes censé donc jouer avec une perruque? Parce que ça, c'est vrai, on pourrait l'indiquer également. Hein, Mélisande, elle a 5 coiffures ou peut-être 18 coiffures, autant qu'il y a de tableaux dans cet opéra. Donc elle change régulièrement de coiffure, et là vous vous saisissez d'une perruque, c'est dans cet acte
4.
Je mélange toujours l'acte 4. Quelle connaissance, Léo. Et donc vous jouez avec cette perruque, et Arkel vous prend pour Mélisande. Non mais ça c'est pas possible.
Oui. La première fois c'était assez bizarre, mais enfin maintenant ça va.
Le genre de blague que ferait Léo, de se mettre une perruque et de se faire passer pour...
Mais aussi c'est assez bizarre qu'ils me prennent pour Mélisande, parce que je suis pas du tout habillée pareil et tout.
Ouais, mais sa vue est très mauvaise, c'est un thème important de cet opéra, la cécité, l'aveuglement.
C'est le chant des aveugles, Péléas et Mélisande, sous-titre.
Et pour en revenir à ça, en fait les enfants ils ont quand même tout un tas de scènes où ils travaillent en amont avant d'être en costume, avant d'être dans une vision vraiment globale et définitive de ce que ça va donner. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident les premières mises en scène où ils vont devoir jouer ça et où il y a très peu d'accessoires. Et là, il faut se donner quand même dans des jeux qui sont pas forcément simples. Hein, Léo, je sais pas ce que tu en penses.
Des fois, c'est assez dur de jouer, mais Enfin, après, on s'habitue, donc c'est bon.
Jouer pour vous, donc je l'avais déjà indiqué, concrètement, c'est être présent. Donc comment êtes-vous présent? Il me semble que vous marchez, je dirais, la pose de l'ado classique, quoi. Vous regardez vos pompes, plus ou moins, vous passez d'un côté à l'autre de la scène. C'était un peu ça qu'on vous a demandé? Ou alors je me trompe totalement? Non, il me semble que c'est ça que vous faites. Vous marchez un peu de part et d'autre de la scène, à certains endroits.
Bah ouais, en fait, c'est Ignol, il s'ennuie tout le temps, il sait jamais quoi faire. Du coup,
il traîne son mal-être.
Il rouille. Quelque chose a changé.
Il soutient le regard des. Il tient le regard.
Il provoque un peu.
Il provoque les adultes, ouais.
Excusez-moi, je vais mettre mon grain de sel. Je n'ai pas vu le spectacle, j'ai un peu lu le livret, hein, que Christophe n'a pas manqué de me prêter, le livret, le CD. Mais l'histoire, alors faudrait peut-être un peu résumer l'histoire.
Bon, l'histoire, vite fait.
Mais en deux, trois
en
lignes.
Deux mots. Moi, j'aime bien faire les choses en deux mots.
Ou alors résumer l'attention, l'objectif.
L'histoire, c'est
le fond de ce spectacle.
C'est l'histoire de Golo qui vient de perdre sa femme, quoi, et qui est dans une espèce de période un peu de. D'errance, quoi, où voilà, il se pose des questions, une période un peu difficile. Il rencontre Mélisandre, qui est une femme un peu mystérieuse, parce qu'il sait rien d'elle, elle ne répond à aucune de ses questions. Malgré tout, il l'épouse, il l'emmène au domaine un peu familial, là, ambiance bizarre. Et puis finalement, c'est l'histoire de ces deux frères, enfin demi-frères, hein, Golo et Péléas, qui sont attirés par le charme un peu mystérieux de cette Mélisande. Voilà, tout se passe autour de ça. Alors après, il y a la jalousie de Golo, il y a que Christophe Honoré fait de Mélisande une femme un tout petit peu moins victime que le livret au départ. Bon, après, voilà, après, il faut venir le voir.
Moins victime. Donc plus.
Je ne peux pas tout dire. Il faut venir le voir. Venez, parce que c'est tellement bien chanté.
Ah,
il faut le dire, oui. Les enfants, ils ont eu aussi cette chance, c'est de, pendant deux mois, de côtoyer des chanteurs absolument exceptionnels, des grandes pointures.
Karine, de les nommer, c'est notamment ces trois.
Alors, je ne connais pas
figures.
Vraiment très bien les noms de tous, mais. Donc Mélisande, c'est Hélène Guilmette.
Une Québécoise incroyable, on l'entend sur la présentation, la toute petite vidéo très courte qui dure une minute trente sur le site de l'opéra. On l'entend donc chanter de manière prodigieuse et on l'entend également répondre à quelques questions sur sa prise de rôle de Mélisande avec un accent québécois, mais magnifique. Elle est. Et puis je crois que c'est les termes assez classiques dans la presse, dans les médias, une plastique assez stupéfiante, une très belle Mélisande,
ouais, enfin,
vraiment.
Ouais.
Ensuite, les deux rôles masculins, Karine.
Après, donc Péléas, c'est un chanteur suisse, Bernard Richter. Voilà. Ensuite, il y a Vincent Le Texier qui est Golo, qui lui a énormément chanté ce rôle. C'est le rôle qu'il a le plus chanté, je pense. Donc c'est vraiment une performance extraordinaire. C'est exceptionnel. Il faut venir le voir.
Il est un petit peu de la maison, hein, je crois, Vincent Le Texier.
Bah, Vincent Le Texier, je crois qu'il est il a chanté à Lyon il y a très longtemps. Donc il est très content de revenir chanter à Lyon. Il a très peu chanté à Lyon. Donc, je ne sais pas s'il est de Lyon, j'en sais rien. Là,
disons,
je sais pas.
Il est passé par l'Opéra de Lyon.
Il est passé par l'Opéra de Lyon.
Voilà, il y a une petite biographie sur le.
Voilà. Et puis il y a aussi, Arkel, qui est une basse, et c'est lui qui est originaire de Lyon, qui est passé par Lyon et qui faisait partie de la troupe Jérôme Varnier. Voilà. Après, il y a aussi Sylvie Brunet qui fait Geneviève. Voilà, j'oublie sans doute le chauffeur aussi, le médecin. Je connais pas son nom, Jean. Voilà, mais enfin, c'est un très 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 beau plateau.
Jean Vandassy, qui est le médecin en coulisses, ainsi que le... puisqu'il y a une voiture, il faut un chauffeur.
Voilà, le chauffeur et puis le berger, une petite réplique de berger.
Il y a une voiture qui arrive sur scène, c'est ça?
Ah oui, il y a une voiture, il m'a semblé que c'était une sorte de Rover, non?
C'est une Jaguar.
Alors les décors, bon, il y a beaucoup de vidéos, visiblement.
Les décors,
les lumières.
Enfin, je sais pas comment, mais c'est des cloisons, c'est un château, plus ou moins, qui se déplace assez
souvent. Un peu angoissant, un peu fantastique.
Ça se veut très gris. Très gris,
très noir.
Très terne, très pâle. Mmh. Je me rends compte que je confondais tout à fait. C'est davantage, effectivement, Jérôme Varnier qui est passé à l'Opéra de Lyon entre 1995 et 2000, alors que Vincent Le Texier, non. Néanmoins, ça n'enlève absolument rien à ses rôles de chanteur prodigieux. Et d'ailleurs, Karine, Thérèse, peut-être même Sophie, je ne sais pas, vos connaissances d'opéra sont-elles... Connaissez-vous cette phrase que j'aime assez souvent, à laquelle j'aime assez souvent penser? Une phrase de George Bernard Shaw qualifiant l'opéra. En gros, pour lui, la plupart des opéras, c'est l'histoire part du la voix de baryton qui essaye d'empêcher la soprano de coucher avec le ténor.
Il y a des enfants dans le studio, je
oui,
sais
mais,
pas.
Ouais, mais
que des belles adapté. Histoires d'amour, voilà.
Oui, mais Christophe Honoré, c'est quand même bien ce qu'il montre. Non, c'est un peu ça, c'est que cette grosse voix de Golo qui au tout début, je ne pourrais plus sortir de cette forêt, je ne sais jusqu'où mes bêtes m'ont mené, enfin voilà, et puis ensuite Péléas avec moi, chante-t-il dans un autre passage, cette voix pleine de jeunesse, cette voix de ténor, il y a peut-être un peu de ça, oui. Non, un commentaire
général. Non, à propos Gérald. De voix, ça me refait penser au magnifique Dixit Dominus donné à la chapelle de la Trinité d'Endel. On parlait avec une personne de voix et de la sensibilité aux voix féminines ou masculines. Et il y a une féerie, quelque chose de surnaturel dans les voix féminines qu'on retrouve à l'opéra ou dans la musique sacrée, baroque, etc. Qu'on a du mal à retrouver parfois avec les voix masculines. Alors je ne sais pas si elles sont très puissantes, ces voix, parfois elles peuvent nous toucher aussi.
Ah ouais, non, Golo est très fort. Et Pélas également. Non, vraiment, c'est ces trois figures de Hélène, Vincent ainsi que Bernard, c'est vraiment très très fort. Ce que je propose, Gérald, c'est de, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, c'est d'écouter. Je vais essayer de bien le retrouver. C'est donc l'extrait, c'est donc le passage, le deuxième passage chanté par Ignold. C'est le début, je crois, de l'acte 4. Je vais essayer de trouver. C'est une production lyonnaise. Ça n'est pas du côté de l'opéra. C'est juste, on passe le Rhône et on va du côté de l'auditorium, puisque l'Orchestre National de Lyon a enregistré hein, Péléas et Mélisande. Ça commence à dater un petit peu, je crois, 1979. Le rôle d'Ignold est incarné, j'en perds mes mots et c'est assez intéressant, est incarné par une certaine Manique Pouradier Dutheil, soprano. Donc on voit bien que bravo à Christophe Honoré, là je peux pas lui enlever ça encore une fois, donc ça fait finalement plusieurs choses que je ne peux pas lui enlever, c'est d'avoir accepté, c'est même d'avoir voulu confier le rôle d'Ignold à un enfant et non pas une soprano grimée ou je ne sais. Donc
ah, il en était pas du tout question de
eh bien,
toute façon.
C'est un choix qui est souvent fait, là notamment il est fait donc dans cette production. On va essayer donc de l'écouter et puis ensuite en fin d'émission Gérald, eh bien évoquons toi donc ce concert que tu as vu du concert de l'Hôtel Dieu et puis moi j'essaierai peut-être de faire donc écouter quand même un jingle de jazz à Vienne et puis nous pourrons évoquer je ne sais pas les prochains projet de la maîtrise. Est-ce que Cléobule et Léo seront encore dans les chœurs ou bien sur scène pour d'autres spectacles? Enfin bref, voyons toutes ces choses-là. Auditeurs, il nous reste encore quoi, un quart d'heure avant le jazz, avant le blues des Canuts de Pascal. Donc j'espère que c'est bien le début de l'acte 4. Est-ce que je peux demander cette confirmation à Léo? Oui, c'est bien le début de l'acte 4. La pierre qui est plus grosse que moi.
C'est pas le début.
3, acte 4.
Ça. Acte 4, scène 3. Mince, oui, alors c'est ça. Alors je vais essayer.
Ah, tu vas écouter l'autre version.
Oui, c'est
bien. Comparer avec celle qu'on a écoutée avant.
Non, c'est l'autre scène chantée par.
Exactement. On va pas comparer. Non, ce qu'on a écouté était incomparable parce que. Claude Dormoy, Michel Comment ainsi Gabriel Baquier, certes des grands noms, enfin non, on va pas, ne révélise pas pour cette opéra.
1979.
Avec Vincent Le Texier, voilà. Écoutons donc cela et puis il sera temps encore de parler de différentes choses. Donc, j'espère que c'est bien ce qui va passer, sinon ce sera autre chose.
Oh, ne font plus de bruit. Ce n'est pas le chemin de l'étable. Où vont-ils dormir cette nuit? Oh, oh, il fait trop noir. Je vais dire quelque chose à quelqu'un.
La 31e édition du festival Jazz à Vienne fait la part belle aux grands chanteurs de jazz. Retrouvez du 29 juin au 13 juillet à Vienne Tom Jones, Matt Dusk, George Benson, Jamie Cullum, Gilberto Gil, Al Jarreau, Raphaël Saadic et Ben L'Oncle Soul. Mais aussi Cyndi Lauper, Ayo, Rhoda Scott. Sans oublier les incontournables soirées thématiques funk, blues, soul, big bands, gospel et all night jazz. Renseignements sur www.jazzavienne.com.
Enfin, oui, effectivement.
Non, Christophe, je ne suis pas d'accord.
Ça marche très mal comme enchaînement.
C'est un scandale.
Ah non, oui, ça n'est pas très beau. Néanmoins, il faut quand même savoir gré au Festival de Jazz à Vienne de nous avoir permis de pouvoir offrir des places aux auditeurs. Oui, oui, des places pour différentes soirées. Les soirées des 28 juin et 9 juillet pour aller voir Jazz Legends ainsi que soirée à la Nouvelle-Orléans. Enfin, voilà. Donc, je tenais au moins à l'indiquer à l'antenne. C'est déjà indiqué sur le blog. Mais c'est vrai que le mariage ici n'était pas du tout heureux. Je tenterai de placer davantage ces jingles en début d'émission.
À la fin, ça sera encore mieux.
Ouais, éventuellement.
Je préférerais à la fin, personnellement.
Le truc ne marchait pas. On a carrément massacré le « je veux dire quelque chose à quelqu'un ». Ouais, c'est très dommage. D'autant plus que, hors antenne, vous nous indiquez, c'était très intéressant, Léo, que le rôle que justement vous avez à ce moment-là, c'est un rôle d'imitation, de mimétisme, puisque la pierre qui est évoquée par Lignol du texte de Debussy, eh bien, cette pierre, dans la mise en scène de Christophe Honoré, c'est le corps de Mélisande qui est au sol parce qu'elle vient d'être, c'est quoi, c'est plus ou moins giflée,
maltraitée
par votre père Golo. Et donc, quand cet acte 4 continue, vous, que faites-vous à ce moment-là avec ce corps?
En fait, je le maltraite, mais un peu, beaucoup moins.
Mais des petits coups de pied quand même, non?
Je suis un peu influencé par Golo. Et puis aussi, les servants, je les prends pour des moutons. Enfin, voilà. Et je les maltraite aussi un peu.
Ah, c'est pas beau, ça. Attention, Léo.
Tu tiens les cheveux, hein.
Oui, enfin, je fais un peu comme,
oh là là, Cléobule
comme
qui
la
caft.
Scène d'avant.
Cléobule qui caft, oui. Vous dites Cléobule, donc il y a des tirages de cheveux, c'est ça?
Ouais, Léo tire les cheveux des servantes.
Une servante.
Une, pardon.
Parce que Golo tire ceux de Mélisande dans la scène d'avant.
Ah oui, donc un mimétisme plein, total et entier. Karine, je vous en prie, peut-être encore quelques mots pour défendre cette mise en scène que je ne veux pas vraiment attaquer, disons
non,
ça m'ennuie.
Mais
je ne
veux pas défendre la
mise en
scène,
pas défendre
je veux
non
surtout
plus,
dire au public de venir le voir et l'écouter, parce que voilà, on monte quand même pas Pélias et Mélisande tous les jours.
Hélas.
C'est quand même une super production, comme je le disais tout à l'heure, avec des chanteurs exceptionnels, et puis qui ont tous des timbres vraiment magnifiques dans leur voix. C'est de très belles interprétations, donc
une diction
donc voilà.
Splendide, vous splendide. L'avez même dit tout à l'heure, Cléobule, c'est un opéra qu'on comprend, on comprend ce qui est chanté. Et c'est quand même rare, ça peut sembler amusant, mais c'est quand même rare, quoi. L'air de la nuit de la flûte enchantée, ou bien je ne sais pas ce que chante Brangen pour mettre en garde Isolde et Tristan dans l'opéra de Wagner. Enfin, elle s'est chantée en allemand parfois, en italien d'autres fois, on ne saisit pas tout. Là, je vais dire quelque chose à quelqu'un, enfin c'est... Voilà, on l'entend, il y a quand même des surtitres qui sont indiqués parce que je crois que l'opéra de Lyon étant un opéra aussi international que ce que nous avons déjà dit il y a de cela 2 ou 3 semaines avec Galia pour le ballet, le public abonde de partout, de Paris, de Suisse, d'Angleterre, enfin les gens viennent et donc c'est vrai que pour eux, suivre le texte, ça peut être important d'avoir des surtitres. Mais je vous ai coupé Karine, vous disiez c'est une production qu'il faut aller voir parce que cette mise en scène de Christophe Honoré... est assez accessible, diriez-vous
ou Oui, elle est, bien sûr, elle est accessible. Je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'opéra, c'est un bon moyen d'y entrer. Voilà. Elle est, ouais. Et puis c'est touchant. Cette lecture, c'est touchant. Voilà. Puis en plus, comme c'est très bien joué, très bien chanté.
Notamment.
Puis à l'opéra, on s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais parce que voilà, on est tout est en live, on est tout près de l'émotion, on ressent ce que ressentent les chanteurs.
Venez à l'opéra. Privilège du spectacle vivant. Oui. C'est comme la musique baroque, on s'ennuie jamais, surtout quand c'est à la chapelle de la Trinité, parce que là, si on s'ennuie un petit peu, ou on entend mal, parce qu'on est un peu loin, ou les sons se confondent, les voix se confondent, malheureusement, quand on est un peu loin, mais c'est pas gênant.
Vas-y,
parce que c'était magnifique.
Dis-nous quelques mots de ce concert.
Le Dixit Dominus, lundi 8, dirigé par Franck-Emmanuel Comte, notre invité de la semaine dernière. J'y suis donc allé pendant que notre cher Christophe était lui à l'opéra.
Alias, voilà.
Donc nous il a choisi ses spectacles.
Nous travaillons sans
le méchant.
Arrêt. Pas du tout. J'ai voulu préparer l'émission. Toi,
on échangera la semaine prochaine.
Et donc,
en tout cas, c'était superbe. Voilà. Et ben, Heather
New House,
qui passe pour être la muse de l'ensemble. Effectivement, a une voix somptueuse, magnifique. Et puis en plus, elle danse.
L'opéra, voilà,
en fait,
est même
une chanteuse
jaloux.
Qui danse.
Sais-tu, Gérald, que l'opéra en est jaloux puisqu'il l'avait piqué il y a 2 ans pour La Flûte Enchantée. Elle incarnait un rôle important. Elle incarnait Pamina, la promise de Papageno. Enfin, c'était.
Elle a surtout chanté l'année dernière dans le Tour d'écrou aussi. Elle était,
donc une excellente
elle
soprano
aussi,
avec une puissance vocale. Et aussi une plastique impressionnante. Et en plus, elle danse. C'est vrai qu'elle se dandine. C'est très impressionnant. Oui, elle se dandine vraiment, quoi. Et on voit que et puis on a envie de danser aussi parce que la musique baroque, ça donne envie de danser en fait. Et c'est ça qui est magnifique. Elle est accompagnée par aussi les très bonnes chanteuses aussi, Stéphanie Varderin et Antea Pichanik, mezzo-soprano,
oui,
qui sont très puissantes aussi. Les deux, le ténor, baryton, Romain Beauclerc, Hugo Peraldo. Ces 5 voix sont superbes. L'ensemble est très bien. Et Franck-Emmanuel Comte dirige de main de maître avec beaucoup d'énergie, beaucoup de
passion,
de force, de passion, d'engagement. Et on sent qu'ils sont en extase, quoi. Ils ont fait un bis. La salle était comble. Et ils ont fait un bis et moi je me suis un peu rapproché, j'étais un peu loin pour voir, écouter plus un peu les voix. Et je les ai vus, ils semblaient tous en extase. Ils étaient très contents, ils le méritaient, quoi. On voit que c'est très fort, quoi.
Ce qui est très intéressant, auditeur, c'est que dans tout ce que nous vous disons, vous pouvez le vérifier, puisque l'opéra Pélée et Mélisande qui a commencé, il n'y a que la première qui est pour l'instant eu lieu. Il y a encore une deuxième ce soir, je crois, mercredi 3. Est-ce que je pourrais donner toutes les dates? Oui, je les ai toutes sous les yeux. Il reste encore le vendredi 12 à 20h, le dimanche 14 à 16h, et puis les mardis 16, jeudi 18, ainsi que lundi 22 à 20h. Pour ce qui est, à l'instant, tu viens de parler du concert de l'Hôtel Dieu, eh bien, ce concert de Dixit Dominus ne sera pas redonné, d'accord, mais la semaine prochaine, Jérôme Salor viendra nous parler, certes, mais il viendra nous parler la semaine prochaine de la Tour Passagère, qui est une sorte de festival qui a lieu du 15 juin jusqu'au 15 juillet. Théâtre élisabétain, théâtre en bois, chapiteau, qui sera monté sur les quais de Saône avec donc différentes œuvres données, des œuvres de théâtre, certes, mais également des concerts. Et Heather Niehaus ainsi que Antea Pichanik seront à l'affiche pour les concerts des 8 et 9 juillet. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Donc voilà, on ne pourra pas réentendre peut-être
ceux qui vont prendre leur voiture peuvent aller au Festival d'Ambronay, où il y a souvent des choses magnifiques.
Et certes, et puis troisième chose que nous disions, le Festival Jazz à Vienne, est-ce que je pourrais faire écouter un deuxième jingle pour ces places que nous vous offrons? Je tente de... si, allez, un deuxième petit jingle, je tente de trouver les dates précises. Et puis il sera temps de terminer l'émission, je crois. Pascal n'arrive pas encore, mais on va arrêter de lui voler sans arrêt des minutes. Écoutons un deuxième jingle, vous allez voir, c'est assez fort. C'est pas la même chose, c'est sur Jazz à Vienne, et puis peut-être ensuite le mot de la fin pour Cléo Bull et Léo. Oui, j'avais une ultime question à leur poser, ils vont y réfléchir. Quand on est sur scène, comment est-ce qu'on perçoit le public? Je laisse réfléchir 30 secondes, puis après à vos stylos.
Ah oui, le track.
Pour sa 31e édition, Jazz à Vienne rend hommage à Miles Davis. Entre concerts d'exception et soirées thématiques, les grands noms des musiques jazz se donnent rendez-vous du 29 juin au 13 juillet à Vienne. Avec entre autres Ahmad Jamal, Sonny Rollins, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Marcus Miller, Chick Corea, Stanley Clark, Lenny White, Mike Stern, Didi Lockwood. Sans oublier les incontournables soirées thématiques funk, blues, soul, big bands, gospel et all night jazz. Renseignements sur www.jazzavienne.com.
Et nous reprenons. Donc voilà, jingle de Jazz à Vienne. Vous pouvez les réécouter, ces jingles, si vous le souhaitez, sur le blog de Spectaculaire, blog.radiocanu.org/spectaculaire. Et puis, vous pouvez donc nous écrire ou nous appeler pour gagner des places. Mais ultime question, elle est 14h59, il est temps de terminer. Gérald, voyons, écoutons les réponses. Composition française. Cléo Bull, Léo, comment percevez-vous, vous qui êtes sur scène, le public? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le ressentez? Qu'est-ce que vous pouvez indiquer là-dessus?
Eh ben, Le public, en fait, premièrement, on le voit pas trop, parce qu'on a, on a les lumières dans les yeux, donc on le voit pas trop. le stress, souvent quand il y a quelqu'un qu'on connaît qui est dans la salle, on est stressé, voilà. Mais quand il n'y a pas quelqu'un qu'on connaît qui est dans la salle, on est moins stressé, voilà.
Et vous, Léo, qui êtes sur scène très souvent?
Moi, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore été stressée.
Ah mince, on va créer alors. Ça, zut.
Pourtant, il y avait ma mère à la générale. Enfin, il y avait mon père aussi. Et il y avait ma mère à la première aussi. Mais je sais pas. Non, je stresse pas.
Bon, pas de stress, non. Très bien. Thérèse,
pourtant, pour les auditions,
un mot de la fin.
La maîtrise, j'ai le truc, mais... Là,
mais non, alors, sur moi, scène, j'ai pas peur.
Juste sur PDA, c'est Mélisande, en fait... Le souci qu'on a eu à gérer avec la mue de Léo a été une très belle expérience partagée, je trouve, parce que c'est pas forcément quelque chose de facile pour un jeune qui s'est préparé depuis le mois de novembre pour ce rôle à deux ou trois jours d'arriver à la générale, d'avoir quelques aigus qui craquent comme ça, c'était pas simple. Et puis on leur a dit, bah écoutez les garçons, c'est un travail d'équipe. Léo, il reste sur scène. Cléo Bulle va chanter. Et vous êtes obligés de tenir l'un et l'autre debout ensemble. Et ils ont fait un magnifique travail dont je suis extrêmement fière. Voilà. Et dans un très bel état d'esprit.
Eh bien, je crois
que vont-ils devenir ?
Ah, il faudra suivre leurs traces. Cléo Bulle et Léo, des prénoms à retenir. Je crois, Gérald, qu'il est quand même temps, même si 15h01 a sonné et que Pascal n'est pas encore dans la place, il est tout de même temps de faire retentir notre fameux générique de Massive Attack. C'est la fin de l'émission. Gérald, nous disons merci. Nous disons bonjour en début d'émission, en fin d'émission.
Et on dit merci à nos invités.
Merci,
venus en nombre.
Merci à vous.
Merci
à vous.
Nous sommes
merci.
Très polis. Rendez-vous sur
merci.
Le site. Ah bah très bien. Rendez-vous sur différents sites, le blog de Spectaculaire si vous le souhaitez. Vous pouvez également aller sur le site de l'Opéra Lyon pour trouver des compléments d'information. Reste-t-il encore des places? Je sais que Carmen, ça avait été vraiment plein, mais Pélas, il reste encore des places. Donc, bien rendez-vous à l'Opéra pour prendre des places ou bien appeler l'Opéra. Enfin bref, recourez à tout moyen que vous avez pour écouter cet excellent opéra qui est trop rare et qui, dans cette mise en scène, peut être intéressant. On n'en dira pas plus. Rendez-vous la semaine prochaine. Oui, Gérald.
Et réécoutez l'émission, cette 70e émission.
Ah oui, réécoutez-la
sur le podcast et le site. Diffusez-la, partagez-la.
Parlez-en exactement. Il reste encore différentes choses à venir sur le programme de Radio Canu. Ben, je vous en prie, restez à l'écoute pour savoir ce qu'il va y avoir à écouter. Bonne semaine à tous. À mercredi prochain. Merci. Au revoir, tout le monde.